Toujours moins 13 degrés sous le soleil. C'est un très beau mercredi matin. C'est aussi la journée la plus froide là, de la semaine et pour un petit bout. Maximum de moins 4, mais journée qu'on va passer là, sous le soleil. Demain, le mercure grimpe un peu. On est à 2 degrés comme maximum, alternance de soleil et de nuages. Sinon, ça se réchauffe quand même pas pire pour vendredi et samedi. Un maximum de 9 samedi et c'est un beau 12 degrés pour vendredi 9 et un beau 12 degrés pour samedi.
La circulation, une présentation de Bel Air Direct. Prenez le raccourci des soumissions rapides. Prochaine destination, rendez-vous en ligne. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
Et puis quand tu dis, c'est la journée la plus frette pour un bout, puis c'est moins 4. Là.
On va le prendre. Hein?
Puis sûrement un bout étant possiblement l'année prochaine.
Hey, non, faut pas le dire tout de suite. Là.
Ben,
des fois, ça arrive au mois de mars là, que... T'sais,
pas un moins 15.
Ah, il y a tout le temps une possibilité de tempête. Non, mais pas moins
15. Tempête,
mais
oui.
Mais moins 4, là, je dis pas un moins 15, mais on peut-être dipper en dessous du moins 4.
Okay. Ouais, j'essaie de contourner l'attention parce que j'ai pas des bonnes nouvelles à la circulation. Puis c'est pas si pire que ça, là, mais pour cette semaine où on sait, semaine de relâche, entre autres, pour le cégep, ça fait que c'est plus facile. Mais quand même, présentement, l'accès au pont, quand même compliqué. Direction nord, évidemment. Capitale-Ouest, quand même pas mal de rouge sur ma carte. Ça commence mi-chemin entre Seigneurial et Beau-Royal et ça se poursuit jusqu'à Laurentienne. Sur Laurentienne, direction sud, à partir du boulevard Le Bourgneuf, il y a un ralentissement qui va se poursuivre jusqu'à un peu l'autre bord de Capitale. Capitale, d'ailleurs, direction est de l'entrée par Henri IV. Là. Fait que coin boulevard Masson, boulevard de Lormière, un petit peu de rouge qui va reprendre plus loin, hauteur Robert Bourassa. Sur Robert Bourassa, direction sud vers le boulevard Le Bourgneuf. Le ralentissement habituel, il est là. Et Henri IV sud entre route Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest, ralentissement également. Tout comme plus haut, là, direction de Shannon, dans le coin de la base militaire, il y a un bon bouchon.
Merci, Max. Il est la vedette du nouvel épisode de Reg Laplanche Backstage. Ça, je trouve des nouvelles façons de le présenter.
Yes!
C'est disponible sur les différentes plateformes, entre autres la page YouTube de Boulevard 102.1. Le vulgarisateur d'actualité, Farnel Morissette. Bon mercredi.
Bon mercredi, comment ça va?
Ça va très, très bien. Merci. Merci d'être là. Puis encore, officiellement, merci pour ce beau podcast, cette belle discussion.
Merci à toi. Ça a été une super belle discussion. J'apprécie vraiment.
Beaucoup de belles réactions. Donc, si jamais ce n'est pas déjà fait, allez regarder ou écouter le deuxième épisode du podcast Reg La Planche Backstage avec Farnel Morissette. Farnel, aïe, on va... veux-tu qu'on commence avec un commentaire? As-tu un commentaire à faire sur la faillite Northvolt? Est-ce que je te lance là-dessus? Est-ce que ça tente de te...
C'est comme une nouvelle, c'est comme une deuxième vague. Ouais. C'est comme on en a parlé de vague et de vague. Ben, y a eu une grosse première vague de nouvelles sur Northvolt quand peut-être que ça allait mal, peut-être qu'elle allait se mettre sous la protection de ses créanciers. Là, c'est la deuxième vague qui arrive. Là, c'est fait. Alors, on va voir comment ça va jouer dans les discussions politiques. J'ai l'impression qu'il y a probablement des gens au bureau du premier ministre présentement qui se disent « Une chance que Donald Trump est là pour nous faire un éclipse médiatique
perpétuelle. » Je jasais de ça tantôt avec Marc-André Leclerc. Là.
Ben, c'est ça, parlant justement de vagues, il y a des vagues tarifaires.
C'est des vagues qui rentrent et sortent vite, hein, plus 25, moins 25, en l'espace de quelques heures. Ça, c'est des vagues rapides. On va faire du surf là-dessus.
Hey, on parle énormément de Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, depuis quelques semaines, quelques mois. Bon, de un, il a gagné haut la main les élections provinciales de l'Ontario. Et là, depuis quelques jours, prend de plus en plus de place dans les négociations et dans la situation de la guerre économique avec les États-Unis. Bonne ou mauvaise chose, selon toi, que Doug Ford, premier ministre provincial, donc premier ministre de l'Ontario, prenne autant de place pour le Canada?
Bonne et mauvaise chose. C'est une position qui est nécessaire, mais risquée. Tant pour Doug Ford que pour le Canada. Faut le dire, présentement, le gouvernement fédéral, que normalement, ce serait sa job de gérer les relations internationales et, entre autres, avec les États-Unis, est encore un peu en train de se chercher ses pieds, ce qui est la situation depuis quelques mois. Alors, en réaction à ça, les premiers ministres de toutes les provinces, ou presque, là, l'Alberta fait un peu chambre à part, se sont ralliés pour remplir le vide, si on veut, et l'ont fait, je crois, très bien. Et Doug Ford, je crois, très naturellement, a pris un rôle de leadership là-dedans, vu que, tu sais, l'Ontario à l'intérieur du Canada. C'est la plus grosse économie. C'est celle qui a potentiellement le plus de capacité de faire des mesures ciblées qui vont faire mal aux États-Unis. Tu sais, je pense, par exemple, quelque chose qu'on ne réalise pas, la LCBO, la SAQ ontarienne, si je ne me trompe pas, c'est le plus grand acheteur unique d'alcool fort au monde. Alors, si le client planétaire numéro un d'alcool arrête d'acheter du Jack Daniels, ça fait mal à Jack Daniels. Et ça, c'est le genre de choses que, justement, la province commence à utiliser dans l'absence d'un leadership central très clair du gouvernement fédéral, prend ce rôle-là. Une chance qu'ils sont là, une chance aussi qu'ils font de concert avec l'ensemble des provinces, mais ce qui est inquiétant, ce qui est risqué, c'est de commencer à avoir Doug Ford qui, fort de, justement, comme tu le dis, un mandat électoral très clair, il ne pourrait pas avoir demandé un meilleur mandat des Ontariens que ce qu'il y a présentement, commence à se la jouer un peu cavalière. Ça commence à se la jouer un peu à la Trump.
Ouais.
Pas dans le sens des annonces hyper populistes, mais dans le sens de sortir des menaces très fortes qui sont pas très réalistes, mais qui font réagir très fort dans une position de négociation pour répondre du tac au tac aux menaces tarifaires et à l'ensemble de toute la rhétorique belliqueuse qu'on voit venir de l'administration Trump.
On s'en va en campagne électorale au niveau du fédéral. Ça va être annoncé prochainement. Mm. Les libéraux sont hauts dans les sondages, fait qu'ils vont essayer d'en profiter.
Ben, on prend le vent quand il passe.
C'est ça. Qui va être notre négociateur durant ces fameuses élections-là, durant cette période électorale-là? Est-ce que ça va être Doug Ford, justement? Est-ce que les ministres présentement du Parti libéral vont être légitimes d'aller négocier pendant une campagne électorale?
Quand ça va être fait, là, quand on va avoir le nouveau premier ministre, Mark Carney, officiellement, qui va officiellement avoir son cabinet pour que ce soit quelques jours, quelques semaines avant qu'on rentre en élection, j'espère que le ou la ministre des Affaires étrangères va très rapidement avoir une réunion avec Doug Ford et l'ensemble des premiers ministres pour se faire un plan de match pendant les élections. Parce qu'il ne faut pas oublier, pendant les élections, les ministres continuent à être ministres. Ils sont ministres jusqu'à ce que les prochains soient les remplacent officiellement. Alors, cette personne-là, je ne sais pas qui ça va être, va avoir les pleins pouvoirs de jouer le rôle que le gouvernement fédéral devrait jouer. Mais encore une fois, avec la conjoncture un peu incertaine par rapport au mandat populaire que ce gouvernement-là a, peut-être ou peut-être pas. Ça va être une négociation, puis je pense que Doug Ford va pouvoir prendre un rôle important là-dedans. J'ai confiance que ça va continuer à être fait dans l'amicalité, dans la coopération avec l'espèce de Team Canada qu'on va se bâtir, mais ça va être une négociation politique et dépendant de la stratégie qui va être développée à l'interne, je serais pas surpris de voir Doug Ford continuer à jouer un rôle important.
Dans l'éventualité, c'est Doug Ford qui joue le rôle important, mais que les ministres libéraux sont quand même actifs avec lui. Le gouvernement de Mark Carney, as-tu intérêt à ce que les négociations se règlent pendant la campagne électorale? Parce qu'avec ça, il gagne les élections, c'est assuré.
J'imagine mal que même à vouloir, les négociations soient réglées à l'intérieur de la campagne. Ça va être une campagne qui, j'imagine, va être très courte. Alors, on pourrait s'imaginer que d'ici un mois et demi, la campagne soit réglée. J'imagine mal, en regardant ce qui s'est passé dans les derniers mois, que d'ici un mois et demi, là, tout est beau avec les États-Unis, on est content, on est amis, on est revenu à la normale. Je l'imagine très mal. Alors, je pense pas que ça va être un facteur décisif. Je pense pas qu'il va y avoir des jeux de stratégie à décider. Est-ce qu'on fait durer les négociations un peu plus ou un peu moins? Mais je crois qu'il y a quand même... Je pense juste hier, Mark Carney a fait un tweet où il dénonçait que ça faisait deux jours qu'à Gaza, l'électricité était fermée. Puis dans le tweet, puis ça, c'est un message en oblique, je pense, assez clair à ce qui se passe dans la situation entre l'Ontario et les États-Unis. Il disait qu'on ne devrait jamais utiliser la nourriture, l'équipement médical et l'électricité comme outil politique. Tu peux pas faire un tweet de même sans savoir ce qui se passe avec l'Ontario et Doug Ford qui menace de fermer l'accès de l'électricité aux États de New York, du Michigan, etc. Alors, c'est une belle façon d'envoyer un message un peu par la bande, dire « Écoute, il faut qu'on se parle avant que tu ailles trop loin là-dedans. » Et je pense que l'équipe de Mark Carney va être très active là-dessus.
Est-ce que, Farnell, le rôle ou la présence de Doug Ford peut créer la grogne chez les autres provinces canadiennes où on est content, si on est premier ministre d'une autre province, que quelqu'un, dans ce cas-ci Doug Ford, prenne cette place-là?
Ben, j'aimerais tellement être... une mouche sur le mur à écouter c'est quoi les appels qui se passent entre Doug Ford et les autres premiers ministres. Parce que veut, veut pas, aux États-Unis, quand Doug Ford parle au nom du Canada. Mm-hmm. Eux ne font pas la différence entre que ce soit le premier ministre de l'Ontario ou le premier ministre du Canada ou le premier ministre du Québec. Pour eux, c'est les Canadiens. Les Canadiens menacent de nous fermer l'électricité. Les Canadiens nous imposent 25 % de prix de plus sur l'électricité. Alors, s'il y a quelque chose qui va mal, pensons au pire imaginable. Okay? Doug Ford décide, oui, on ferme l'électricité. Là, il y a une panne d'électricité à quelque part dans le nord de l'État de New York. Il y a un hôpital qui manque d'électricité. Il y a un enfant qui meurt. Ben, dans les nouvelles aux États-Unis, ça va être « Le Canada a tué un enfant. » On ne peut pas avoir ça. Mm-hmm. Alors, il faut que ce soit fait de façon concertée, totale. Je comprends qu'on est dans une réalité politique où on fait des menaces qui n'ont pas d'allure, mais en tout cas, j'espère que malgré toutes ces menaces et ces grands discours-là, à l'intérieur, derrière les portes, les discussions sont beaucoup plus posées.
Est-ce que Doug Ford a une certaine renommée, par contre, auprès de Donald Trump? Puis je m'explique. Hier, il dit 25 % sur l'électricité. Trump dit « Ah ouais, 25 % de plus acier aluminium. » Finalement, Ford dit « C'est beau, m'a l'enlevé le 25, mais je m'en viens de voir à Washington jeudi. Ok, c'est beau, j'enlève mon 25 aussi. » On dirait que Ford a comme ce rapport de pouvoir-là avec Trump que Trudeau n'avait pas. Je me trompe-tu?
Jusqu'à un certain point. Oui, c'est rare, généralement, en politique internationale, qu'un chef d'État d'un pays va répondre à un chef d'État d'une sous-section d'un pays. C'est comme si, imaginons, le gouverneur du Wisconsin faisait quelque chose et le premier ministre du Canada répond. C'est rare. Normalement, un premier ministre du Canada va répondre au président des États-Unis et vice-versa. Mais il faut quand même noter que oui, M. Trump a réagi publiquement à quelque chose que Doug Ford avait dit, ce qui est quand même qui donne une importance à M. Ford qui semble aller plus loin que simplement un premier ministre d'une province. Mais la réunion qui va avoir lieu à Washington, c'est pas Doug Ford et Donald Trump, c'est Doug Ford et secrétaire de l'administration Trump, ce qui est à un niveau approprié en termes de réciprocité. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que, bon, ben là, M. Trump est en train d'élever Doug Ford dans l'imaginaire populaire des États-Unis, mais on n'est pas encore en train de traiter Doug Ford comme si c'était de facto le représentant canadien. On le traite encore comme un représentant d'un État fédéré à l'intérieur du Canada.
Je suis curieux de t'entendre quelque chose parce que pour Donald Trump, ça a l'air d'être la nouvelle affaire, ça, de jaser des lignes. Que là, les lignes artificielles entre le Canada et les États-Unis, la frontière. Quoi. Et là, ben clairement, on peut voir dans le jeu de Donald Trump, ce qu'il veut, c'est de venir chercher, de venir gruger un petit peu de territoire. Fort possiblement qu'on comprend que ce serait pour avoir l'accès un peu plus au Grand Lac et tout ça. Pas quelque chose qui se peut. On peut pas commencer à négocier. T'sais, c'est là où je commence à être inquiet un peu de... OK, ça, c'est... La Russie veut aller chercher du territoire à l'Ukraine, puis on commence par petit peu. Donald Trump, c'est un peu effrayant ce qu'il dit là.
Le parallèle avec la Russie est intéressant parce que ça ressemble beaucoup à ce que la Russie dit à propos de l'Ukraine, que l'Ukraine est un faux pays, une espèce de pays imaginaire créé artificiellement. Oui, c'est inquiétant ce genre de commencer à parler, de dire « Ah, ben on veut redessiner la frontière, on n'est pas d'accord » parce que Là, on n'est plus en train de parler de guerre économique, on est en train de parler de guerre. Parce que si un pays décide « Non, ce territoire-là, c'est plus à toi, c'est à moi », c'est comme ça qu'on commence une guerre. Encore une fois, t'sais, est-ce que c'est juste des grosses déclarations? J'haïs qu'on est rendu dans une réalité où on ne peut plus croire les politiciens à leurs paroles parce qu'on se lance des déclarations de même pour après ça reculer quand vient le temps de réellement négocier. Je trouve aussi très particulier que la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ça, il faut que ce soit blindé puis il n'y a personne qui passe. C'est super important, mais la frontière entre le Canada et les États-Unis, ça, c'est artificiel, ça a été fait un peu n'importe comment, c'est n'importe quoi.
Si c'est artificiel, pourquoi on se plaint du fentanyl, d'abord?
Ben, c'est pas juste ça. À la base, qu'on se le dise, là, toutes les frontières sont artificielles.
Ouais, c'est ça.
Mais, en tout cas, ça me rappelle, je pense que l'administration Trump et Donald Trump lui-même a beaucoup parlé du président McKinley. Et ce qu'on voit présentement, c'est beaucoup, beaucoup des mêmes idées, des mêmes politiques que ce qui se faisait sous la présidence McKinley, de justement mettre beaucoup de pression sur le Canada, faire de l'expansionnisme à travers le monde. Peut-être que M. Trump a lu une biographie de M. McKinley, il était bien inspiré, puis il disait que ça allait être ça. Je trouve ça vraiment intéressant, mais oui, commencer à parler de redresser la frontière, c'est inquiétant. Et cette idée-là que la frontière est pas légitime ou qu'elle a été faite d'une façon un peu artificielle, au sens pas très sérieuse. Je suis d'accord, là. Je veux dire, cette ligne-là qui en a été tracée, c'était entre des pouvoirs coloniaux qui, pour la plupart, avaient aucune idée de ce qui se trouvait dans les territoires où ils faisaient une ligne. Je veux dire, il y a une petite section du Wisconsin qui est clairement attachée au Canada, qui est genre quelques dizaines de kilomètres carrés, qui a été fait parce que, littéralement, quand les autorités coloniales canadiennes et les autorités des États-Unis faisaient la frontière, il y avait le logo du créateur de la carte qui était là. Alors, ils n'ont pas vu qu'il y avait de la terre là, qui avait décidé la ligne. Mais ça, c'est la réalité coloniale de l'époque, puis ça a été de même pendant plus qu'une centaine d'années. Remettre ça en question aujourd'hui, ça manque de sérieux.
Hey, Fernel, en terminant, on va le faire assez rapidement, puis je le sais que c'est peut-être une question complexe, puis on n'a pas la recette parfaite, mais qu'est-ce qu'on pourrait concéder à Donald Trump que lui, ben, il verrait ça comme une victoire, il serait heureux, puis on arrêterait ce yo-yo au quotidien là, de menaces d'un bord puis de l'autre, puis on aurait finalement une entente, puis qu'on pourrait avancer pour le reste de son mandat?
Ah, ça, c'est tellement une grosse question.
Ouais, je le sais, excuse-moi.
Ben, je veux dire, il y a des thèmes récurrents qui même remontent à la première administration de Trump. T'sais, le bois, l'aluminium, l'acier, ça avait été des thèmes dans la négociation qui avaient aussi été corsés, pas autant corsés que ce qu'on voit maintenant, mais qui avaient été corsés pendant la première administration de Trump. Je pense qu'il y a peut-être des négociations à faire là. On a d'autres thèmes, c'est une autre chose qui avait été négociée dans le renouvellement de l'entente de libre-échange, le lait, les œufs, c'est des choses qui sont des questions récurrentes, qui sont des points de friction de toutes les administrations, républicaines, démocrates, Trump et non, entre le Canada et les États-Unis. Il y a peut-être une renégociation à faire là. Peut-être qu'on devrait juste avoir une entente où on se dit, écoute, à tous les 5 ans, on renégocie ces situations-là en fonction d'où est-ce qu'on est. Et puis, ça nous permet, au lieu de se lancer de la boue, juste d'avoir régulièrement on se parle entre voisins, de dire, OK, bon, ben, telle chose, on peut bouger là. Ici, on veut reculer un peu, mais on peut avancer là en échange. Mais c'est des questions de petits points de pourcentage. C'est vraiment à voir aussi avec notre industrie, qu'est-ce qu'on est capable, où est-ce qu'on est capable aujourd'hui. Notre situation n'est plus la même qu'elle était en 2016. Peut-être qu'on a un peu plus de flexibilité d'un bord puis un peu moins de l'autre, mais ça, c'est une question qui il faut regarder les chiffres de très près, il faut parler à l'industrie de très près, puis moi, tout seul, j'ai aucunement la capacité d'avoir de la vision là-dedans. Là.
Vous devez le suivre sur les réseaux sociaux. Allez écouter le plus récent épisode du podcast Reg La Planche Backstage avec Fernel Morissette. Fernel, comme toujours, un vrai plaisir. Merci pour ça ce matin.
Merci à vous. Bonne journée.
À bientôt. On s'arrête 2-3 minutes.